Au bout de l'actu. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Avec l'invité d'Au bout de l'actu, ce soir, il est maire de Sisteron, président de l'Association des maires de France dans les Alpes-de-Haute-Provence et président de la communauté de communes du Sisteronais Buèche. Et il est en duplex de ses bureaux de la mairie de Sisteron. Bonsoir, Daniel Espagnol.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être notre invité ce soir. Plusieurs sujets que nous allons aborder avec vous. Mais tout d'abord, un sujet autour duquel vous avez souhaité réagir et qui nous amène du côté de Barré-sur-Méouge, Cyrielle.
Exactement, puisque nous avions reçu la semaine dernière Bruno Lagier, le maire de Barré-sur-Méouge, qui pointe du doigt le conseil départemental des Hautes-Alpes dans sa gestion notamment de la DSOA. La DSOA qui va déménager les 21 résidents handicapés restants du foyer occupationnel de Val-des-Roches, qui iront donc dès le mois de juin prochain sur Bois-Saint-Jean à Gap. La question aujourd'hui qu'il pose du côté de l'intercommunalité du Sisteronais Buèche, c'est que va devenir ce bâtiment? La première question, Daniel Espagnol, selon vous, Barré-sur-Méouge va-t-elle devenir une zone sinistrée, comme il le déclare, Bruno Lagier?
Alors écoutez, on fait tout pour éviter que justement ça devienne une zone sinistrée, puisque la communauté de communes et s'est portée acquéreur, comme l'avait souhaité la DSEA en son temps, par une lettre qu'elle avait adressée à M. Bruno Lagier, qui était président de la communauté de communes de Ribier. Donc, nous avait proposé de racheter les locaux à l'euro symbolique pour essayer justement de faire un projet d'aménagement du territoire dans tout ce secteur. Donc, quand j'ai pris la présidence, j'ai tout de suite pris contact avec la DSEA. On s'est entendu pour visiter les locaux. J'ai même organisé un bureau de la communauté de communes sur place. On a visité, j'ai nommé un copil, donc présidé par un vice-président, pour justement nous faire des propositions concrètes. Et puis, le 23 janvier, je me suis rendu à Gap, j'ai rencontré le président de la DSEA et la directrice pour leur parler de ce projet et leur dire qu'on avait la volonté donc d'honorer la lettre qui avait été adressée donc au président de la communauté de communes de Ribier, qu'on était prêt à acheter acheter donc ces locaux. Et à ce moment-là, le président m'a indiqué que il voulait faire évaluer avant les biens, les mettre en vente chez un marchand de biens, et que s'il n'y avait pas d'acquéreur, bien sûr, il nous ferait refuser l'achat de ces bâtiments à l'euro symbolique. La seule condition, c'était de payer, bien sûr, ce qui restait d'amortissement à payer, c'est-à-dire dans les... Nous, communauté de communes de Sisteron-et-Buèche, on attend maintenant une réponse de la DSEA. Le président du conseil départemental que j'ai vu le même jour dans son bureau pour lui en parler, puisque vous savez que la DSEA dépend directement par les subventions du conseil départemental, et que finalement lui-même était d'accord donc pour le scénario qui était proposé par la DSEA. Donc on a fait notre boulot, on a beaucoup travaillé sur ce. Je suis un peu amer de voir que M. Lagier, qui n'est venu assister qu'à une seule réunion alors qu'en tout il y en a eu 6, est tenu des propos comme celui-là.
Oui, parce qu'il déclare, on va le reprendre, une commission a été mise en place, mais l'intercommunalité est contre ce rachat, sans plus d'explications.
Non, l'intercommunalité n'est pas contre ce rachat, puisque je vous dis, j'ai nommé une commission, ce qu'on appelle un copil, un groupe de travail qui s'est rendu sur place, et on a même plein de propositions pour utiliser les locaux.
Donc finalement, Bruno Lagier est mal informé, si je vous comprends bien ce soir.
Il est mal informé, il est membre de la communauté de communes, il a qu'à venir aux réunions, il sera informé. En plus, je le vois souvent, on en a souvent parlé, bien sûr, de ce projet. Moi, j'y suis favorable en tant que président, mes collègues aussi, mais pour le moment, c'est la DSEA qui décidera si elle nous le vend à l'euro symbolique ou pas. Parce que nous, s'il faut acheter ces locaux, qui sont quand même vétustes, et bien, nous les achèterons pas. Où on honore, eux comme nous, la fameuse lettre où il est dit à monsieur le maire de la commune
de Barré-sur-Méouge,
on vous vendra à l'euro symbolique tout bâtiment, et bien, à ce moment-là, bien sûr, on est prêt à l'acheter. et à y faire quelque chose. Je vous assure, on a des projets très intéressants. Il y a même deux entreprises artisanales qui veulent s'installer. Il y a un gymnase qu'on pourrait restaurer qui servirait à toute la commune, même à tout le secteur, même aux communes de la Drôme qui sont à côté. Donc, moi, je suis persuadé que ce serait une façon, justement, de compenser un petit peu la grosse perte, quand même, il faut bien le dire, que va subir la commune avec le départ du Val-des-Roches.
Oui.
Donc, c'est un peu un déménagement du territoire, puisque, bon, s'installer à Rosan, tant mieux, c'est dans notre communauté de communes, mais une partie va quand même, et la plus importante, s'installer à Gap.
Est-ce que vous remettez en
donc
question
je comprends la colère.
Ouais, vous remettez en question ce déménagement, Daniel Spagnou, comme le faisait Bruno Lagier, qui considère que c'est mettre à mal une partie du département des Hautes-Alpes et aussi de la communauté de communes du Sisteron-et-Buëch. Est-ce que vous comprenez ce choix? Est-ce qu'il est légitime selon vous, ou il aurait été possible de réhabiliter ces locaux? Vous le disiez vous-même, ils sont dans un état très vétuste.
Non, pas très vétuste, parce que quand même ils ont été entretenus, mais il y a des travaux à faire, parce que vous savez bien que maintenant, avec les normes actuelles, sont normes. Mais bon, moi, j'ai pas jugé la décision qui a été prise par la DSEL, le conseil départemental, puisqu'à l'époque, j'étais pas président de la communauté de communes. Mais en effet, pour moi, c'est quand même un petit déménagement du territoire. C'est encore un peu comme ce qui va se passer à l'hôpital qui risque de se passer à l'hôpital de la Ragne ou à l'hôpital de Sisteron, la fermeture de services comme cela, de familles qui s'en vont, c'est une catastrophe quand même pour nos zones rurales et de montagne.
Alors justement, bon, parlons-en en effet de ce que vous pointez aujourd'hui. Alors on a parlé de la DSO, on va parler de l'hôpital de jour cardiologique de Sisteron. Et comme vous le disiez dans un communiqué de presse, vous avez appris par inadvertance finalement ce souhait de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, dans son plan régional de santé 2018-2023, eh bien de fermer ce service et de le rapatrier sur le Chicas de Gap. Assiste-t-on au fur et à mesure à une recentralisation des services publics? On a parlé de la DSEA, on peut parler aussi de la santé aujourd'hui.
Ben bien sûr, ben on le voit depuis très longtemps, hein. c'est pas le gouvernement actuel qui en est la cause. Il y a depuis 30 ans où on voit bien les services publics s'en aller les uns après les autres. Vous savez, moi, à mon hôpital, on a fermé après on m'a fermé la chirurgie, maintenant on va me fermer le service cardiologie. On voit bien que les gouvernements changent, mais les politiques de santé sont toujours les mêmes. Mais là, on a l'impression qu'on veut regrouper, département par département, beaucoup de services de santé autour d'un seul établissement. Et je sais bien que je suis vice-président du conseil de surveillance du Chicas à Gap, donc je vois bien les difficultés que connaît l'excellent directeur que nous avons pour justement faire tourner son établissement. Je connais le déficit très important et qui devient même inquiétant de l'hôpital du Chicas. Mais en même temps, je crois que c'est pas une bonne politique que de se dire, en fermant des services dans les hôpitaux de proximité, on va conforter l'hôpital de Gap. C'est pas vrai. Et parce qu'une partie de la clientèle, d'ailleurs, s'en ira ailleurs. Et c'est pas comme ça qu'on va faire baisser le déficit de l'hôpital de Gap. Donc, moi, je suis franchement contre ce système. On va se battre. On est en train de se battre. Et je voudrais remercier d'ailleurs Monsieur le ministre Castaner, qui a bien voulu s'en occuper, qui m'a même appelé il y a quelques jours, qu'il avait bien sûr fait une intervention auprès du directeur de l'ARS. L'ARS est un état dans l'état. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vous annoncent les choses. Puis alors après, ils vous disent, bon, on va négocier maintenant. C'est un peu le système Macron quand même, ça.
Oui, et d'ailleurs, vous avez été entendu d'ailleurs par la région également, puisque sur notre antenne, Chantal Amioud, qui est seconde vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, conteste tout cela. Elle le dit elle-même, il faudra négocier en argumentant avec des chiffres précis qui pourront démontrer à l'ARS que les choses telles qu'elles sont aujourd'hui sont viables. Alors que ce soit à Sisteron ou dans d'autres cas qui concernent les Alpes du Sud, parce qu'il n'y a effectivement pas que Sisteron, comme vous l'avez dit, Daniel Spagnou, la région a un rôle important, là aussi, à jouer auprès de l'ARS.
Oui, et d'ailleurs, Chantal Mehout, qui est présidente de la conférence, justement, régionale de la santé, eh bien, elle défend les trois établissements, et le sien en particulier, puisqu'ils veulent fermer les urgences la nuit,
oui.
Sauf un mois l'hiver, je crois, et un mois l'été. Donc, vous savez, quand on ferme des urgences une partie de l'année, ça veut dire qu'elles sont fermées très vite. Donc oui, il faut qu'on se batte au plan régional. Et il faut On est soutenu également par le président de la région.
Ouais, il faut que vous vous battiez de façon collective. C'était ça finalement le sens de ma question. Est-ce qu'il est temps pour les élus des deux départements finalement de se retrouver, de mettre des arguments en commun et de prouver à la ARS aussi que les élus sont là aussi pour défendre les intérêts des citoyens?
Oui, je crois d'ailleurs que M. Darcourt, le directeur de l'ARS, a été surpris de voir la réaction qu'on a eue tout de suite les uns et les autres. Et tous ensemble, bien sûr qu'on est élus, on est unis. Le président du conseil départemental tout de suite aussi a réagi et a dit qu'il nous soutenait. Donc j'ai l'impression que l'ARS est en train quand même de marche arrière. Déjà, on va nous envoyer, nous assisterons, deux médecins indépendants qui vont venir faire une espèce d'audit du service qu'ils veulent fermer. Parce qu'ils se sont aperçus que ce service, on l'avait ouvert il y a 6 ans, qu'il avait coûté 550 000 euros, qu'il n'y en avait pas d'autres dans les deux départements alpins. On a dit que du département était venu inaugurer un grand de pompe et que 6 ans après, on le ferme. Et il a été sensible aussi, d'après ce que je sais, aux arguments d'Henriette Martinez, ce qui concerne, bien sûr, la Ragne, où il a été surpris quand il est venu visiter, de voir l'établissement en très bon état. Et alors, on veut enlever des personnes qui sont dans un environnement très beau à la Ragne pour les mettre dans un hôpital fermé à Gap. Donc, je crois que tout ça fait qu'il est en train quand même de réfléchir. Et il va venir nous rencontrer les uns et les autres. Il y a une commission qui a été nommée également.
Ouais.
Et on va enfin discuter.
Et ce qui prouve qu'une action collective a quand même du sens et peut porter ses fruits bien plus fort que des interventions individuelles. Dany Spagnou, vous restez avec nous, on marque une courte pause. Et on se retrouve dans un instant pour la suite d'Au bout de l'actu sur Alpe 1.
Au bout de l'actu, Alpe 1, avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Avec notre invité ce soir, Daniel Spagnou, qui est maire de Sisteron, président de l'association des maires de France dans les Alpes-de-Haute-Provence et président de la communauté de communes du Sisteronais et Buèche, Cyrielle.
Revenons justement sur la santé, on en parlait juste avant la pause. Vous le disiez, j'ai l'impression aujourd'hui que l'ARS et Claude Darcourt sont en train de faire marche arrière, surtout qu'ils voient que le service de cardiologie de jour de Sisteron fonctionne, tout comme le pôle Provence de l'hôpital de la Ragne-Montéglin. Mais finalement, on peut se poser la question, comment l'ARS prend ses décisions quand elle fait son plan régional de santé? Elle prend une carte et elle met des croix?
Moi, je crois que c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, pour vous expliquer exactement comment j'ai appris cela, à la fin du conseil de surveillance du CHICAS, donc le directeur, Monsieur Lebras, a pris la parole en disant, voilà, maintenant on va vous présenter les grandes lignes du projet de l'ARS en ce qui concerne les 5 années à venir. Et là, moi, j'ai cru prendre une syncope quand j'ai vu défiler sur écran les fermetures dont on vient de parler. Et donc, bien sûr, j'ai pris la parole et j'ai dit, c'est pas possible, on n'est pas informé, rien. Même le maire de Gap, d'ailleurs, a pris la parole en disant, mais on ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc tout le monde a été stupéfait et ça n'est resté là. On nous a dit c'est une information, il va y avoir maintenant, on va vous informer les uns et les autres. Voilà, c'est tout. Mais si j'étais pas allé à cette réunion ce soir-là, j'aurais rien su. Et puis on nous mettait devant le fait accompli le 15 juin prochain, quand on va arrêter définitivement. Donc, ce plan,
oui,
moi je pense que c'est sur une carte qu'on regarde.
Et rappelons que l'ARS répond aussi aux exigences du ministère de la Santé, ça sera peut-être l'occasion d'en parler avec Agnès Buzyn, qui pourrait être en déplacement dans les Alpes du Sud dans les jours à venir. Autre sujet, Daniel Spagnou, sur lequel nous voudrions revenir avec vous, puisque vous êtes président de l'association des maires de France dans les Alpes d'Haute-Provence, et sur cette fameuse taxe d'habitation qui sera supprimée pour l'ensemble des Français d'ici à 2020-2021, la date n'est pas encore tout à fait précise. Les premières propositions pour compenser les pertes financières pour les communes ont été proposées. Alors soit d'un côté on propose que finalement ce soit le département qui comble le déficit avec un plus venant de l'État pour les départements, ou alors les communes, elles bénéficieraient d'une taxe nationale pour combler ce manque à gagner. Ces deux scénarios qui sont aujourd'hui proposés. L'un des scénarios qui a été mis de côté, c'est l'hypothèse de créer une nouvelle taxe. Ça, il n'en est pas question à l'heure actuelle. Comment vous vous situez dans ce débat? Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que les citoyens ne prennent pas vraiment conscience de l'intérêt que peuvent avoir cette suppression de la taxe d'habitation, mais ne prennent pas conscience aussi de ce que ça peut avoir comme retombée directe pour les communes?
Ah oui, des retombées énormes. Rien que pour la commune de Sisteron, on perdrait 6 millions d'euros par an, ce qui veut dire qu'on ne pourrait plus faire de budget et que ce serait une catastrophe. C'est pour ça que les maires sont inquiets beaucoup plus que les populations, parce que les populations, on leur dit, vous ne payerez plus de taxes d'habitation. Et ils ne réfléchissent pas, parce qu'il faut bien trouver l'argent quelque part, hein, puisque quand même, ça fait des milliards et des milliards. Donc il y a une inquiétude profonde, vraiment. Profonde. Je vous dis pourquoi. C'est pas la suppression de la taxe d'habitation qui nous inquiète. C'est de savoir que on a l'intention de le faire. Alors maintenant, bon, c'est vrai que c'était 2020. Maintenant, on parle de 2021. Aujourd'hui même de 2022. Pourquoi pas? Mais c'est parce que on est inquiet parce qu'on ne sait pas comment elle va être compensée. Et moi, qui suis maire depuis 35 ans, j'ai vu toutes les compensations. Elles marchent 2 ou 3 ans et après, c'est fini. On n'en parle plus. On l'a vu avec la compensation de la taxe professionnelle avec Nicolas Sarkozy. Hein, nous avait promis pareil qu'on serait à l'euro près compensé. Et puis aujourd'hui, on n'est plus compensé du tout.
Cela dit, là, il y a deux propositions claires. Il y a deux propositions claires dans le rapport qui a été rendu. Je le rappelle. D'un côté, la part départementale de la taxe sur la propriété bâtie. Hein, je fais un petit peu court pour résumer la situation. Oui. Et un autre scénario. Une part d'impôt national qui serait attribuée directement au bloc communal. Est-ce qu'il y a un scénario qui trouve un avantage à vos yeux?
Alors, aucun des deux ne trouve un avantage à mes yeux, parce que, bon, de toute façon, il faudra, ce qu'on va nous donner à nous, il faudra bien trouver l'argent pour compenser ceux qui vont perdre. Mais la deuxième solution, à ce moment-là, aurait ma préférence.
Est-ce que ça veut dire qu'à terme, de toute façon, cette suppression de la taxe d'habitation, qui est au départ une action pour le pouvoir d'achat du citoyen, va quand même à nouveau ponctionner son portefeuille, puisqu'il faut bien compenser, vous l'avez dit. Et comment compenser, si ce n'est que de ponctionner aussi là où on peut prendre de l'argent?
Bien sûr, c'est toujours les mêmes qui payent. Nous, ce qu'on a peur, c'est qu'on soit obligé d'augmenter d'une façon très importante la taxe foncière, puisque c'est le seul impôt qui va nous rester. Vous vous rendez compte? Donc, il faudrait bien qu'on prenne l'argent quelque endroit. Moi, j'ai été obligé d'augmenter pour la première fois en 25 ans de 2 et quelques % ma taxe foncière cette année. Oui. Autrement, je n'arrivais pas à faire mon budget. Beaucoup de communes sont en difficulté en ce moment. Savez-vous que la moitié des maires, d'après un sondage qui a été fait, la moitié des maires dit... Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne se représenteront pas aux élections prochaines parce que, justement, ils ont trop de difficultés pour pouvoir gérer leur commune et faire leur budget. Alors, la suppression de la taxe d'habitation, je pense que c'est une annonce qui a été faite un peu trop vite par le président de la République. Je suis persuadé, je ne suis pas dans la tête de M. Macron, mais je suis persuadé qu'il doit regretter d'avoir annoncé cette mesure dont personne n'avait voulu jusqu'à maintenant. J'ai jamais entendu. Me demander la suppression. C'était assez bien fait puisque ceux qui ne pouvaient pas payer, ne la payaient pas. Ceux qui pouvaient payer, la payaient. Et on était compensés là à l'euro près. Et ça fonctionnait très bien. Voilà, il fallait laisser la taxe d'habitation. Alors maintenant, on nous dit aussi, on va augmenter, vous pourrez augmenter la taxe d'habitation des résidences secondaires puisque elle devrait ne pas être touchée, celle-là.
Effectivement.
Ouais. Vous vous rendez compte, alors ce sera une catastrophe pour des départements comme les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, qui ont beaucoup de résidences secondaires. Et donc, ça veut dire que si on double les taxes d'habitation secondaires, les gens ne viendront plus, vendront et s'en iront. Voilà.
Donc, en tout cas, on aura compris une chose, c'est que vous restez sur le second scénario qui est proposé par le rapport aujourd'hui, c'est-à-dire une part d'un impôt national qui serait attribué directement au bloc communal et qui serait issu soit... Alors, à définir, de la TVA, de la CSG ou de la taxe sur les carburants. Puisqu'on parle de la difficulté des maires à vouloir s'engager sur l'éventualité de se représenter pour certains ou même de s'engager, vous en êtes où votre réflexion sur 2020, Daniel Espagnol? Les rumeurs commencent à se faire sentir et à courir dans votre commune. Vous devez certainement en entendre parler de temps en temps. Vous aviez jusqu'à présent dit que ça serait votre dernier mandat, que probablement vous passeriez la main tout en restant, pourquoi pas, au sein d'une assemblée municipale, mais pas en tête de liste. Vous en êtes toujours à ce stade-là dans votre réflexion?
Alors écoutez, pour le moment, je ne veux pas ouvrir ma succession dès maintenant parce qu'il y en a déjà beaucoup qui s'agitent autour de cela. C'est normal, c'est pas qu'ici, c'est dans toutes les communes où on sait que les maires ont un âge aussi qui fait que ils ont envie peut-être aussi de prendre un peu la retraite. Mais tout ce que je peux dire, moi, c'est que je prendrai ma décision dans le courant du mois de janvier prochain. Mmh.
Ça veut dire que vous n'excluez pas de vous présenter. Ça veut dire que vous n'excluez pas de vous présenter en tête de
oui,
liste.
Oui, je n'exclus rien. Je ferai le point pour voir où en est la situation, voir s'il n'y a pas 36 candidats, essayer de faire l'union le plus possible. Parce que pour quelle raison je suis là depuis si longtemps? C'est parce que on a toujours fait l'union autour de moi. Alors je veux savoir aussi si une fois, si moi je décidais de plus me présenter. Si justement il y aurait pas la désunion avec tout un certain nombre de candidats, parce que vous savez bien que dans une commune comme la mienne, dans un conseil municipal, il y a plusieurs personnes qui peuvent être candidats à ce poste. Alors on fera le point en janvier. Je prendrai ma décision. Si je me représente pas, je dirai pour qui je soutiendrai. Voilà. À ce moment-là, et puis et je n'exclus pas, par contre, d'être sur une liste. D'être sur une liste, bien sûr, comme candidat, mais pas pour être maire. Voilà. Il y a plusieurs scénarios. Il y a celui-là aussi, d'être sur une liste pour le candidat que je
vous pourriez soutenir soutenir une liste En Marche, Daniel Spagnaud?
Bah, bien sûr, pourquoi pas.
C'est une question.
Pourquoi pas faire, vous savez, de plus en plus, on ira vers des listes d'union. Avec des gens de bonne volonté, qui ont appartenu à des partis divers. Il peut y avoir, pourquoi pas, on peut très bien envisager, pourquoi pas, un accord avec En Marche, avec des gens de droite qui sont avec moi depuis le début. Mais l'essentiel, c'est trouver la tête de liste qui convienne à tout le monde.
Oui, qui fasse l'union autour d'un projet.
Et qui fasse l'union autour d'un projet, voilà. On en parlera. Moi, autour de moi, j'ai quand même des gens qui sont là avec moi depuis des années et des années, donc il faudra bien aussi que...
Sylvain Jaffre pourrait faire partie de ceux-là?
Il est conseiller municipal en ce moment, Sylvain Jaffre. Donc il est au même titre que les autres.
Très bien.
Mais il y a aussi mon premier adjoint, Jean-Bernard Templier, il y a aussi d'autres, il y a des jeunes aussi qui sont rentrés.
Bien.
On se réunira. Moi, mon rôle, je crois qu'il sera de un moment donné, de réunir tout le monde et de poser la question, de dire voilà, qu'est-ce que vous voulez faire tous ensemble, et puis moi je verrai comment je serai déjà en janvier. Vous savez, il y a deux choses qui m'empêcheraient de continuer. Alors là, c'est la santé, voilà, parce que c'est le plus important, et la dureté de la fonction, parce que franchement, c'est une fonction qui devient très, très... C'est pour ça que si moi j'y retourne pas, il va falloir qu'on ait quand même quelqu'un de très solide qui soit ici, qui ait l'habitude de faire fonctionner Sisteron, parce que Sisteron est devenue une commune connue de partout. Elle est un peu donnée un exemple, je le vois tous les jours. Bon, et je voudrais pas que tout ça parte à tous azimuts, tout ce travail que j'ai fait pendant 35 ans, eh bien, soit dispersé
et qu'on n'oublie pas que Sisteron, c'est aussi la perle de la Provence, et qu'elle ne perde pas cette appellation. Merci d'avoir été à nos côtés ce soir, Daniel Spagnaud. Et donc, promis, on vous posera pas la question jusqu'à janvier 2019, puisqu'on a compris que c'est à ce moment-là que vous prendriez votre décision. Merci d'avoir été notre invité. Dans un instant, la suite sur Alpe 1, 19h, ce sera le récap de l'info. À tout de suite.